faux.
Jusqu'à quand le quoi qu'il en coûte doit-il s'imposer? Pourra-t-on fermer le robinet des aides d'un seul coup? Et comment traduire la considération que méritent ces salariés de ces professions qui permettent depuis un an de maintenir l'activité économique? Toutes ces questions, elles sont au cœur de la conférence sociale qu'organise Jean Castex cet après-midi en visioconférence avec les partenaires sociaux. Le brouillard sanitaire qui reste épais ne devant pas empêcher de dessiner un horizon économique et social. Et avant d'en parler avec nos invités, intéressons-nous donc au cas de toutes ces professions, éboueurs, aides à domicile, chauffeurs routiers, caissières, très exposées, qui n'ont pas pu télétravailler. Bonjour Sarah Lemoine.
Bonjour Frédéric.
Un an après le début de la crise sanitaire, les salariés de la deuxième ligne n'en peuvent plus d'attendre et le gouvernement devrait annoncer un coup de pouce financier.
Oui, le gouvernement veut créer une nouvelle prime sur le modèle de la prime Macron. Elle ne serait pas versée par l'État, mais par les employeurs qui le souhaiteront. Et pour les inciter à le faire, cette prime sera exonérée de cotisations et d'impôts. Ce qui reste à trancher, ce sont les modalités, pour qui et comment. Les organisations patronales qui ont le sentiment de se faire renvoyer la patate chaude sur ce sujet négocient serré depuis plusieurs jours avec Matignon. Ce matin, sur France Info, le patron du MEDEF a expliqué qu'il ne voulait pas d'une prime ciblée sur les seuls travailleurs de la deuxième ligne, car ça va créer des problèmes, dit-il, dans les entreprises, entre salariés qui pourraient l'avoir et ceux qui ne l'auront pas. Selon le président du MEDEF, le gouvernement pourrait du coup annoncer un dispositif à deux étages avec une prime jusqu'à 1000 euros ouverte à tous les salariés en dessous d'un certain niveau de salaire et une prime un peu plus importante jusqu'à 2000 euros pour les travailleurs dits de la deuxième ligne. Seul bémol, toutes les entreprises n'auront pas les moyens de la verser, prévient déjà le patronat, il y aura donc des mécontents.
Mais l'idée de cette prime, Sarah, c'est une gratification rapide pour les travailleurs de la deuxième ligne, en attendant mieux.
Oui, le ministère a lancé une mission en novembre dernier. Elle a permis d'abord d'identifier précisément ces travailleurs. Il y avait deux critères, la présence sur site pendant le premier confinement et l'exposition au risque. Résultat, 4,6 millions de salariés du privé peuvent être considérés comme des travailleurs de la deuxième ligne. Ils sont répartis dans 17 familles de métiers, aides à domicile, agents d'entretien, caissières, ouvriers du bâtiment, de l'agroalimentaire, bûcherons. Selon les travaux du ministère, ils touchent en moyenne des salaires plus faibles que la moyenne des salariés du privé. Certains n'atteignent pas les 10 000 euros par an. Il y a beaucoup de temps partiel, beaucoup de femmes, beaucoup d'insatisfaction. Le constat est accablant. Sur la base de ces données objectives, la ministre du Travail veut inciter les 15 branches professionnelles concernées à ouvrir des négociations pour revaloriser ces métiers. Alors en matière de salaire, d'évolution de carrière, d'accès à la formation, de mobilité. Mais ça va prendre du temps, et vu les réticences du patronat, c'est loin d'être gagné.
Ouais, vaste chantier, effectivement. Merci, Sarah Lemoine. On voit bien l'idée des deux temps, l'immédiat et puis le plus structurel. Et je vous présente nos invités. Bonjour, Cyril Chabagnier.
Bonjour.
Vous êtes le président de la CFTC. Et bonjour à vous également, Philippe Askenazy.
Bonjour.
Vous êtes économiste du travail, directeur de recherche au CNRS. Cyril Chabagnier, c'est vrai qu'on a du mal à se dire qu'un an après, cette question de la prime, elle n'est toujours pas réglée, pour ne parler que de l'urgence, et elle est toujours aussi compliquée.
Elle n'est toujours pas réglée, elle est toujours compliquée, et il faut absolument qu'on arrive à la régler. C'est pour ça que la conférence sociale aujourd'hui doit absolument aboutir à des annonces de la part du gouvernement. Maintenant, ça fait près d'un an qu'on attend cette mesure immédiate, mais pas que, parce qu'on a aussi, et Sarah Lemoine vient de le dire, toute la partie négociation sur l'ensemble de la reconnaissance des secondes lignes.
Mais pour rester sur l'immédiat, la fusée à deux étages, 1000 euros pour tout le monde et 2000 pour les plus exposés, ça peut être un bon compromis?
Ça peut être un bon compromis. En tout cas, l'important, c'était que cette prime soit mise en place. Je crois que justement l'idée c'est de pousser pour qu'il y ait des négociations au niveau des branches. On voit bien que les travailleurs de la seconde ligne, en dehors du fait qu'il faut une reconnaissance immédiate sous forme de prime, il y a aussi tout un travail de fond qu'on doit effectuer. On parle des conditions de travail, des évolutions de carrière, de la mobilité. Et le fait de lier cette prime, enfin en tout cas la possibilité de la doubler à des négociations de branches, on espère que ça va vraiment inciter les branches à rentrer dans cette reconnaissance plus globale des travailleurs de la seconde ligne.
Oui, je me tourne vers Philippe Askenazy parce que ça montre, les chiffres que citait Sarah Lemoine, ça montre de façon lumineuse, particulièrement éclairante, la situation de tous ces salariés.
Oui, tout à fait. Ces salariés, en fait, c'était une situation qui préexistait avant la Covid. Mais oui,
on ne la regardait pas. On ne la regardait pas, ou peu.
Oui, voilà, on la regardait pas, on détournait d'une certaine manière le regard. Alors en partie par le fait que dans beaucoup de ces secteurs, la représentation syndicale est finalement très très limitée. C'est des secteurs avec beaucoup de travailleurs en CDD et qui donc n'ont pas une possibilité de revendication. Beaucoup aussi de temps partiel féminin. Donc structurellement en faiblesse pour porter des revendications, en tout cas pour la plupart des professions concernées, donc peu visible. Le problème était préexistant et je dirais que la Covid a finalement révélé que d'ailleurs ces métiers, on parle plus vraiment de seconde ligne dans la mission RL et Moreau-Folfand, on parle plutôt de métiers de la continuité économique et sociale, et c'est bien cela qu'a révélé la Covid.
Une forme de service public d'une certaine manière, évidemment, voilà, évidemment qu'on est dans le privé, mais
alors,
par ailleurs,
vous avez raison de souligner, ça c'est une autre des difficultés qu'il y a avec cette conférence sociale, c'est qu'elle ne porte que sur les salariés du privé, que des négociations dans les branches du privé. Et lorsqu'on parle d'insatisfaction au sein même des entreprises, peut-être, mais il risque d'y avoir de grandes interrogations par rapport à tous les salariés du public hors santé, puisque eux ont été traités par les Ségur de la santé, qui ont été au poste, le sont toujours dans les phases de confinement, et qui ne sont absolument pas concernés par ces négociations. Et je pense que c'est aussi un des obstacles, c'est-à-dire que d'un côté, l'État doit aussi donner un signal vis-à-vis du monde des entreprises privées que lui, comme employeur, a aussi une reconnaissance vis-à-vis de ses métiers.
L'État employeur, c'est important, c'est Chabanier qui le montre un signe aussi.
Oui, c'est toujours important parce qu'il y a ce besoin de montrer l'exemple. Et c'est vrai que l'État aujourd'hui demande dans le privé ce que lui-même ne fait pas forcément dans le public, hormis le secteur de la santé. Et puis il y a tout aussi tout le secteur que j'appellerais alors privé ou semi-public, ça dépend comment on le voit, mais par exemple le secteur de la sécurité sociale, on sait aujourd'hui que la précarité augmente, il y a une très forte mobilisation qui est faite au niveau de l'assurance maladie par rapport au Covid, mais aussi pour les aides familiales par rapport au CAF. Ben voilà, toutes les aides qui sont données à travers la précarité comme le RSA, donc on a toute une population qui est vraiment mobilisée, on a une protection sociale et heureusement qu'on l'a, qui s'est mobilisée pour faire face à ce Covid. Les salariés sont souvent des salariés d'ailleurs qui ont certes peut-être la sécurité de l'emploi, mais qui ont des salaires qui sont largement inférieurs à deux fois le SMIC. Donc ces personnes-là doivent être aussi récompensées et ça serait un signal fort donné par l'État.
Et pour rester dans le privé, Cyril Chabanier, vous comprenez également les arguments du patronat, mais nos entreprises souffrent aussi, donc difficile de donner des primes conséquentes. On est dans des secteurs qui souffrent.
Alors sur ça, je suis un peu plus modéré parce que si on parle des travailleurs de la seconde ligne, ce sont quand même des secteurs qui, par définition, ont continué à travailler. Donc c'est quand même pas les secteurs les plus touchés par la crise. On doit pouvoir les reconnaître, on doit pouvoir faire une prime. Alors après, évidemment, c'est très vaste les secteurs de la seconde ligne, donc certains secteurs s'en sont tirés mieux que d'autres, évidemment. Mais on parle quand même d'une continuité de service, et vous avez parlé, vous, de presque d'une mission de service public. Donc on parle de travailleurs qui ont exercé durant le Covid, qui ont continué leur activité avec des entreprises qui ont continué à générer quand même des bénéfices pour la plupart. Donc on peut imaginer que la prime soit versée.
Et ces enjeux, le Premier ministre Jean Castex qui en discute avec d'autres membres du gouvernement et avec les partenaires sociaux cet après-midi. Philippe Ashkenazi a des questions, vous avez raison, de vocabulaire qui compte, qui ne sont pas que sémantiques, deuxième ligne ou métier de la continuité économique. Et puis il y a aussi l'autre enjeu économique essentiel, c'est les primes qui posent question ou les salaires qui doivent être mis sur la table?
Alors, les primes sont justement à voir comme une transition. Alors, on aurait pu voir les primes comme une forme de réparation par rapport à la situation du printemps dernier où on avait des travailleurs sur site qui n'avaient pas les équipements de protection.
Oui, pas de masque, rien.
Donc, voilà, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas d'équipement de protection. Et donc, finalement, une réparation à la fois pour ceux qui sont malades. Donc là, il y a une part de reconnaissance de maladie professionnelle de la Covid. Et puis pour les autres, un préjudice d'anxiété. Donc, les primes peuvent être vues comme une réparation. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vision qui est quand même différente, de se dire que lors de la prochaine, si on a une prochaine crise sanitaire, ce que personne ne souhaite, eh bien, il faudra que ces travailleurs continue à se mobiliser. Et pour être d'une certaine manière socialement certain d'une mobilisation de ce nouveau sacrifice, entre guillemets, de ces travailleurs, eh bien il faut qu'il y ait une reconnaissance salariale, mais aussi de leurs conditions de travail, de leurs conditions d'emploi, donc tous ces paramètres-là, par la société. Et une des manières que l'on a pour reconnaître en France, c'est à travers les négociations collectives telles qu'elles peuvent être menées au niveau des branches.
Alors, dans des branches où vous le disiez, les syndicats ne sont pas très forts.
Emploi, profit, mais je pense qu'il faut largement les modérer. Ce que l'on sait, par exemple, dans le secteur de la propreté, qui est très étudié au niveau international, c'est que lorsqu'on remonte les minima, que ce soit un salaire minimum ou les minima de branche, eh bien, toutes les entreprises vont être obligées d'augmenter leur prix, les marges sont très très faibles, donc elles augmentent leur prix, et finalement, eh bien, il n'y a pas de destruction d'emploi, parce que tous ceux qui ont besoin de ces services de propreté vont quand même utiliser, malgré des prix légèrement supérieurs. Donc il y a vraiment, aujourd'hui, probablement pour une part importante de ces travailleurs, des marges de manœuvre pour améliorer leurs conditions.
C'est-à-dire, Cyril Chabanier, quand le chef de l'État a invité tout le monde à se réinventer il y a quelques mois, bah oui, message aux chefs d'entreprise, arrêtez de considérer qu'augmenter un peu les plus bas salaires, ça, c'est défavorable à l'emploi.
Oui, il faut vraiment qu'on change de logique. Et d'ailleurs, à la CFTC, on milite depuis longtemps, et en tout cas depuis le début de cette crise, pour qu'on puisse aller vers la montée en gamme de nos produits. Et qui dit montée en gamme de nos produits, dit aussi montée en compétences des salariés pour pouvoir justement produire ces produits plus novateurs et qui demandent plus de technologie. Et donc, il faut absolument qu'on cesse ce cercle que j'appelle ce cercle vicieux, qui est qu'il faut toujours produire à plus bas coût. Je pense que aujourd'hui on voit la limite de cette stratégie. Et nous, on propose de l'inverser, c'est-à-dire d'aller vers la réindustrialisation, d'aller vers les investissements, vers la technologie, d'avoir des produits à plus forte valeur ajoutée et de meilleures technologies. Et ça demande au contraire des salariés mieux formés, plus compétents. Et qui dit des salariés plus compétents et mieux formés, dit des salariés mieux rémunérés et qui, du coup, peuvent acheter des produits de meilleure qualité. Et c'est dans ce sens-là où on essaye d'inverser et d'aller vers un cercle vertueux.
Et c'est ça qui sera en discussion dans les branches, dans les mois, peut-être les années qui viennent. Je voudrais votre regard à tous les deux sur un autre des enjeux qui est différent, mais pareil en termes de solidarité que doivent faire les uns et les autres. Il y a une idée qui est mise sur la table, je crois, par la CFDT pour financer tout le quoi qu'il en coûte, augmentation des impôts pour les plus riches. Après, il faut voir ce qu'on met derrière, bien évidemment. Philippe Askenazy, c'est une question qui se pose vraiment.
Alors, si on considère qu'il y a un problème budgétaire en France, oui, il faudra trouver des modes de financement. On peut avoir aussi une autre type de vision qui est finalement un partage des efforts. Il y a eu un effort dans leur chair d'une part des travailleurs, et puis on sait qu'une part de la population a très largement épargné, n'a pas été concernée directement par la Covid. Donc je crois que c'est plutôt une question en fait d'équité ou de cohésion sociale qu'une nécessité économique à proprement parler.
C'est comme ça que vous le voyez aussi, Cyril Chabanier? C'est une question qui mérite d'être mise sur le tapis?
Question qui mérite d'être mise sur le tapis, mais je suis complètement d'accord avec les propos qui viennent d'être tenus. C'est-à-dire que sur la théorie, je suis assez d'accord. C'est sur la méthode que je ne partage pas forcément ce que proposent mes collègues de la CFDT. C'est-à-dire que l'augmentation des impôts, en tout cas pour les plus riches, je ne suis pas certain de l'efficacité. Par contre, il y a eu une épargne qui a été très conséquente durant le Covid, plus de 85 milliards qui ont été épargnés, en particulier par les très très hauts revenus. Et donc avoir plutôt une contribution ou une taxe sur cette épargne qui a été faite par les très hauts revenus, nous y sommes favorables à la CFTC.
Une taxe exceptionnelle.
Taxe exceptionnelle, évidemment, quand je parle de l'épargne très conséquente, et je ne parle pas des livrets qu'on a tous sur lesquels on a pu mettre peut-être quelques économies pour ceux qui le pouvaient. Mais vraiment, taxer l'épargne pour les hauts revenus, je pense que c'est important. Et pour tous ceux qui sont de la classe moyenne, qui ont pu épargner quelques centaines ou quelques milliers d'euros quand ils le pouvaient, là, on est plutôt sur une mobilisation en termes de confiance économique. Il faut redonner la confiance pour que les personnes reconsomment.
Oui, voilà. Et pour que l'économie reparte également. Merci beaucoup. Beaucoup d'idées sur le tapis. Merci beaucoup de les avoir évoquées.